Vacarme.
SOS Fantôme.
Laurence Di Félix, Raphaël Boucher.
Chasser les fantômes est un hobby tout à fait sérieux. Le groupe suisse de recherche en paranormal mène des enquêtes dans des châteaux, dans des maisons hantées, chez des particuliers ou dans des lieux publics. Et pour traquer spectres et esprits frappeurs, nous verrons qu'il faut suivre un protocole strict et s'équiper de nombreux appareils. Mais avant de rencontrer deux membres du groupe, nous avons rendez-vous avec un spécialiste de la littérature du 19e siècle, le siècle qui a connu la grande mode du spiritisme et des tables tournantes, le siècle lors duquel de nombreux écrivains, Victor Hugo par exemple, se sont passionnés pour le sujet. Daniel Sansu est professeur émérite à l'université de Neuchâtel. Il collecte tout ce qui concerne les fantômes, dans la littérature, les films ou les simples récits du quotidien. Il leur a consacré deux livres, Journal d'un amateur de fantômes et Les fantômes comme les chats choisissent leur maître. Il nous emmène aux abords d'un lieu prétendument hanté.
Il y a cette grosse inscription « Aban » qui montre que il vaut mieux ne pas s'y aventurer. Peut-être essayer de faire un tour sur la droite. Je crois savoir qu'il y a un passage dont parlaient les informateurs.
Le spectre de la preuve, reportage Mathieu de Dardel, réalisation Mathieu Ramsauer.
Daniel Sansu, où est-ce qu'on est ici?
Alors ici, on est entre sur les bords du lac de Neuchâtel, entre chez le Barthe et Saint-Aubin, je crois. Dans ce bouquet d'arbres, enfin important, qui est une petite forêt, il y a le château de Miremont, château réputé hanté. Donc je connais ce château parce que des lecteurs m'ont signalé qu'il y avait eu des phénomènes de hantise. J'ai rencontré des gens qui habitaient dans le coin, c'est-à-dire une des personnes qui me disait a organisé un rendez-vous, un apéritif, et nous avons parlé de ces phénomènes de hantise que je rapporte dans Les fantômes comme les chats choisissent leur maître. Voilà, donc tout ce que je sais sur ces fantômes, les fantômes du château de Miremont, est dans un passage de ce journal. Mais voilà, moi je suis resté assez à la surface de tout ça, parce que je ne suis pas un chasseur de fantômes. Le train passe à proximité. En fait, la villa, ou le petit manoir, est entre la route cantonale et la ligne ferroviaire, avec pas mal de passages de train, ce qui explique peut-être aussi que les propriétaires ne s'attardent pas. Il n'y a pas que les fantômes. Est-ce que ce ne serait pas un enregistrement de chien?
On dirait un faux chien, effectivement.
Oui, c'est évident. Un chien fantôme.
Peut-être un détecteur de mouvement qui déclenche une alarme.
Sans doute. Au-dessus de la porte, on voit des armoiries. Ciné Dolo, avec cette inscription, Ciné Dolo, dans un phylactère, qui veut dire sans douleur, si je comprends bien, ou sans mal. C'est un petit peu contradictoire avec ce lieu où il y a eu tant de malheurs, justement, tant d'accidents. Le château de Miremont est le théâtre d'un double phénomène de hantise. On y entend une enfant qui pleure et des portes qui claquent. Ces phénomènes seraient dus à deux événements tragiques. En 1932, une petite fille tomba de la terrasse du château en se penchant pour répondre à sa mère et se tua. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Miremont servait de résidence à des soldats polonais, d'où l'appellation de « la Pologne » donnée aux environs, l'un d'eux chuta dans les escaliers et se tua. Les versions divergent quant à la raison de sa chute, suicide, accident ou accident provoqué. Le fait est qu'il se passe des choses suffisamment effrayantes pour que les propriétaires ne restent jamais longtemps à Miremont et n'aient de cesse de se débarrasser du château. L'un de ses propriétaires a tenté de se suicider en se pendant au grand lustre de l'escalier. Heureusement ou malheureusement pour lui, le lustre a cédé et il s'est retrouvé paralysé.
Vous-même, justement, à force de recueillir ces récits, d'entendre ces différentes histoires de fantômes, est-ce que vous avez fini par y croire ?
Il se trouve qu'à force de fréquenter les fantômes, de lire les histoires de fantômes, d'étudier la littérature sur les fantômes, de lire aussi des anthropologues, etc., petit à petit, disons, le fantôme est devenu quelque chose d'assez banalisé pour moi. En fait, c'était un objet d'étude comme un autre. J'ai travaillé sur Stendhal, sur la parodie, sur le récit excentrique, toutes sortes d'objets littéraires. Et les fantômes dans la littérature, c'était un de ces objets, un chantier de recherche comme un autre. Je n'allais pas vers les fantômes parce que je croyais aux fantômes ou parce que j'avais envie d'y croire ou parce que c'était chez moi une question existentielle. Donc, j'ai fini par être comme immunisé, en somme, à force de fréquenter ces fantômes qui sont des fantômes bienveillants d'une manière générale. D'ailleurs, les fantômes auxquels je m'intéresse sont plutôt des âmes en peine qui reviennent, qui ont des besoins, qui ont envie qu'on les écoute. Enfin, c'est ce que je rencontre le plus souvent dans la littérature que je choisis de lire aussi. Il y a toute une tradition des légendes sur les fantômes, des histoires de fantômes qui se passent de génération en génération. Et une de mes activités de recherche, ça a été de suivre des filiations d'histoires qu'on trouve depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, et avec des transformations, des variantes. C'est une espèce de stock d'histoires avec des intrigues convenues qu'on retrouve d'un écrivain à l'autre. Enfin, c'est ma vision, en tout cas, de la littérature pneumatologique.
Pneumatologique pour esprit.
Voilà, la pneumatologie, c'est la science qui s'occupe des esprits.
Ces histoires, c'est quelque chose qui fait partie un peu du folklore, qui est raconté de génération en génération. C'est un peu pour divertir, finalement, qu'on parle des fantômes.
Bah, il y a différents buts, c'est aussi pour faire peur aux petits-enfants ou pour se faire peur. Il y a un certain plaisir à se faire peur. Hein. Et donc, si on parle de château hanté, il faut voir qu'il y a par exemple toute une tradition qui commence par le roman noir anglais, parce que les châteaux sont des lieux, et particulièrement les châteaux gothiques, sont des lieux impressionnants, avec des dédales de salles, un nombre de pièces. Et donc tout ça était propice et propice à un imaginaire du fantôme. Les fantômes peuvent se cacher dans toutes sortes d'endroits dans les châteaux. C'est un des ressorts importants de la littérature fantastique.
Finalement, ce château, ça vous paraît inquiétant, ces lieux ?
Oui, je pense que c'est inquiétant si vous y venez en soirée ou la nuit, disons. C'est quand même... C'est une atmosphère actuellement. Bon, il fait beau, la vue est magnifique sur le lac, il y a le bruit des voitures qui nous rattache à la réalité, mais j'imagine que si on vient à partir d'une certaine heure, il y a tout cet imaginaire de la nuit et des monstres qu'elle peut cacher ou des fantômes qu'elle peut abriter. Hein. Vous arrivez, vous entendez les voix des chiens et... Pour peu qu'un clair de lune éclaire ce bâtiment qui est quand même fermé, opaque, il y a quelque chose d'inquiétant. Mais là, sinon, moi je rentre volontiers. S'il fallait rentrer par effraction, ça ne me posait pas de problème. Ce n'est pas les fantômes qui m'arrêteraient, mais plutôt la peur d'être arrêté par la police. Ok.
Typiquement, on a une échelle de 1 à 10 sur 4 diodes. Et quand il y a des champs électromagnétiques, donc si j'allume par exemple la bobine Tesla, ça, plus je m'éloigne ou plus je m'approche, et ça détecte justement le champ électromagnétique de la bobine Tesla. Et après, pareil, on a, Si on est proche d'un mur ou d'un plafond, on va utiliser un autre appareil justement pour détecter les conduites électriques. Si on a un champ électromagnétique proche d'une conduite électrique, on pourrait faire le lien entre un problème électrique et le champ électromagnétique.
Et cette bobine Tesla là, que vous avez enclenchée, ça sert à quoi ?
À la base, c'est une bobine Tesla qu'on trouve sur AliExpress et autres pour faire une enceinte un peu particulière. Et nous, par contre, on l'utilise, alors pas pour mettre de la musique, mais pour saturer une pièce ou un endroit en électricité statique. Ce qui permet aux entités ou fantômes, enfin vous appelez ça comme vous voulez, il y a une théorie qui dit qu'ils se servent justement d'électricité statique pour pouvoir se manifester. Donc nous, en fait, on leur fournit du carburant, si on veut, pour espérer avoir une manifestation.
Et puis, vous montriez aussi l'autre appareil, ici. Si ça s'allume dans les jaunes, rouges, c'est une indication qu'il y a quelque chose ?
Potentiellement, il peut y avoir quelque chose. On ne va pas dire qu'il y a quelque chose, parce que nous, on est sur enquête très terre-à-terre. Et c'est pour ça, justement, que, par exemple, on a l'autre pour trouver les canaux électriques. Parce qu'on va d'abord essayer d'éliminer tout ce qu'on peut expliquer avant de dire là on a quelque chose. Le micro-ondes, le radio-réveil, le câble électrique d'une vieille installation qui commence à s'abîmer ou qui a été mal posée. On va essayer d'éliminer tout ça avant de pouvoir dire là il y a quelque chose.
Typiquement, les radios-réveils, on a eu le cas d'une personne qui nous avait contacté et elle avait toujours des impressions la nuit quand elle dormait. Dès qu'elle se mettait au lit, cette impression de qu'il y avait quelque chose dans la pièce avec elle. Et en fait, son radio-réveil, c'était ces vieux radios-réveils que nos parents avaient dans les années 90. Et il dégageait tellement de champs électromagnétiques que c'est ça qui lui provoquait en fait cette sensation de mal-être. Du moment où elle l'a enlevé, ça a été terminé. Donc c'est des petites choses toutes bêtes du quotidien qui pourraient nous amener à se dire « il y a une présence dans ma maison », mais pas du tout en fait.
Alors on a les températures aussi. Donc il y a aussi une théorie qui dit qu'une forte baisse de température soudaine pourrait être signe qu'il y a une entité. Donc ou par thermomètre infrarouge, ou avec des caméras thermiques. Donc on a la petite qui vient se brancher sur un téléphone, ou on a aussi carrément des téléphones qui ont la caméra thermique intégrée.
Ça nous permet de pouvoir vérifier les zones de température, et puis s'il y a un problème quelque part, ça peut être un bon indicateur en fait. Typiquement quand on est dans un fort, où c'est tout en pierre, et quand il y a des zones de chaleur, ça peut être un peu étrange.
On enquête de nuit, pas pour se faire peur, on enquête de nuit parce que nos caméras infrarouges, justement, on peut utiliser l'infrarouge de nuit, et c'est beaucoup plus dur à utiliser de jour. Après, on va continuer sur les caméras, on a un système de vidéosurveillance. Donc, on a... Dans l'équipe, on a deux systèmes qui nous fait 16 caméras. Donc là, c'est justement des kilomètres de câbles à tirer. Et après, on a aussi des détecteurs de mouvement. Ça nous permet, parce qu'on ne peut pas être dans tout le site en permanence, d'avoir des alarmes qu'on mettrait à certains endroits pour savoir s'il y aurait quelque chose qui bouge à certains endroits. On a quand même enquêté dans des lieux d'une certaine importance au niveau taille. Et il faut penser des fois que si on est d'un côté, on n'entend pas forcément ce qu'il y a à l'autre bout. Ou que le temps qu'on arrive à l'autre bout, il n'y aura peut-être plus rien. Des fois, c'est à double tranchant. Ou un chat ou un rat suffit aussi à les déclencher. Donc il faut aussi penser des fois à ne pas les poser par terre, ou à les mettre à une certaine hauteur.
Comment vous avez su vous équiper ?
Alors, à la base, je dirais qu'on partait vraiment avec des caméras à la main. Et puis petit à petit, on a investi dans des enregistreurs audio. Après, il y a aussi la télé, on va pas se mentir. Les premières équipes américaines qui passaient sur les télés chez nous en Europe ont aussi énormément influencé ce qu'on appellerait les chasseurs de fantômes. J'aime pas du tout ce terme, mais les enquêteurs paranormaux, c'est mieux. Et du coup, après, bah, petit à petit, c'est aussi du travail de recherche, en fait. Du coup, nous, on est vraiment plus sur tout ce qui est environnemental. Après, il y a d'autres équipes qui ne travaillent pas du tout comme nous. Mais voilà, l'équipement, en fait, se fait vraiment petit à petit. Et après, avec la façon aussi de travailler, de rechercher.
Vous avez réalisé plusieurs enquêtes, plusieurs dizaines d'enquêtes. Comment vous sélectionnez les lieux dans lesquels vous allez investiguer ?
Alors, majoritairement, on se fie déjà à l'histoire du lieu. C'est-à-dire que si c'est un lieu qui est trop récent, clairement, ça ne vaut pas la peine d'y aller parce qu'il n'y aura pas assez d'historique et d'ancienneté pour se dire qu'éventuellement, peut-être, il pourrait y avoir quelque chose. En général, on a beaucoup fait le Fort Lécluse parce que c'est un lieu qui existe depuis avant Jésus-Christ. Du temps de Jules César, déjà, dans ses écrits, il parlait du Fort Lécluse. Et c'est vrai que c'est un lieu qui a vécu beaucoup de tragédies, qui a subi des incendies également, et qui est très chargé, en fait. En plus, c'est dans une partie montagneuse, donc rocheuse. Il a été construit dans la roche. Du coup, c'est aussi ce phénomène environnemental, tout ce qui est la mémoire de la pierre, la mémoire de l'eau. Ça impact, on pense qu'il y a un impact au niveau des phénomènes qui pourraient se produire.
Comment vous avez commencé à vous intéresser au paranormal ?
Alors, c'est au décès de mon grand-père, en fait, la nuit de son décès. Je me suis réveillée et en fait, j'ai eu l'impression de le voir en face de moi. Alors, j'ai fait un bond dans le lit, je suis sortie du lit en courant et ça m'a fait... En fait, j'ai pas réussi à me rendormir. Le lendemain matin, mon papa m'a appelé pour me dire que mon grand-père était mort à l'heure où moi, j'ai eu l'impression de le voir devant moi, en fait, en pleine nuit. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à me poser la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose après, en fait ? Et de découvrir, en fait, qu'est-ce qui se passe et pourquoi certaines personnes sont plus aptes à voir des phénomènes que d'autres. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui existe ou est-ce que c'est le cerveau humain qui travaille ? C'est plein de questions qui sont toujours sans réponse à l'heure actuelle.
Et puis pour vous, les phénomènes paranormaux, c'est quelque chose qui vous intrigue depuis longtemps et pourquoi ?
Alors, c'était sur un terrain militaire dans la région genevoise. C'était une sorte de dame blanche. Mais au moment de vraiment le regarder, ça flottait à plus ou moins à 40 cm du sol. Et le temps de réaliser, de taper sur la jambe du collègue qui était à côté de moi, il n'y avait plus rien. C'était vraiment entre deux arbres. Puis il m'a demandé ce qu'il y avait. J'ai rien dit. J'ai dit non, laisse tomber. Mais voilà, c'est... De fil en aiguille, on s'intéresse un peu aux légendes. Après, on passe aux légendes urbaines. Et puis, on franchit le pas. Et puis, on commence à investir dans un enregistreur, dans une caméra. Et on arrive, bientôt 30 ans plus tard, à être président d'une association. Et puis, dire à Amandine, ah, là il y a un château, ça peut être intéressant, tu pourrais faire une lettre.
Aussi par curiosité, combien il y a de membres aujourd'hui dans le groupe suisse de recherche en paranormal ?
Au jour d'aujourd'hui, nous sommes trois. Nous relançons l'équipe et on va pas tarder à remettre une annonce pour avoir des enquêteurs en supplément.
Et puis dans le passé, vous avez été jusqu'à combien ?
Le maximum qu'on a été, on a toujours tourné 6-10 enquêteurs. On aurait bien aimé avoir une équipe plus grosse, mais équipe qui dit équipe plus grosse dit plus de matériel, plus d'argent à sortir, plus d'enquêtes à trouver et pas forcément plus de temps.
Est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu voilà, les résultats de vos enquêtes, des preuves que vous avez récoltées?
Alors, on a ici, c'est au Fort-Lécluse. Donc, on va mettre pause. On a, alors, donc on a une façade devant nous et au rez-de-chaussée, on a 5 portes. Si on se concentre sur la deuxième porte du côté gauche, on va voir gentiment la porte qui s'ouvre. Et là, on a deux choses pour dire que il n'y a pas quelqu'un de nous derrière la porte qui tire cette porte. C'est de un, dans la pièce derrière, on avait une caméra. On n'a personne qui est rentré dans cette pièce. C'est vraiment la preuve qu'il n'y a rien. Et vous pouvez réconfirmer qu'on a de l'herbe et il y a un léger vent qui soulève les feuilles, mais qui ne serait certainement pas assez puissant pour faire bouger une porte qui doit faire une dizaine de centimètres en bois massif.
Et un loquet mal fermé?
Alors, la porte est restée fermée. On a enquêté le vendredi, samedi et dimanche. Le fort était à nous. Donc, on avait les clés du fort. Même les responsables du fort ne sont pas venus. Donc, on peut dire que cette porte, elle n'a pas de loquet et elle ne s'est pas ouverte durant ces 3 jours, sauf à cette heure-ci. Et au Fort-Lécluse, on a remarqué quelque chose, c'est on a des phénomènes, on a enquêté 3 fois dans ce lieu, 3 fois 3 jours, et on a 2 phénomènes, donc cette porte et un autre phénomène qui est... Alors là, on est dans une pièce qui est creusée dans la roche et on va avoir un voile noir qui apparaît, qui obstrue quasiment toute la lumière et on a juste la lumière de la sortie de secours qui reste allumée. Mais ça peut pas être une extinction des lumières. Ben, si c'était une extinction des lumières, la caméra serait passée en infrarouge automatiquement. Et là, c'est vraiment un voile noir qui apparaît du bas vers le haut, si je ne me trompe pas.
Ça va en remontant. Et puis, nous, ce qui nous a tout de suite interpellés, c'est que sur le coup, on s'est dit, bon, bah, c'est un défaut de la caméra.
Bagarre.
Mais en fait, la lumière exit, donc la lumière de la sortie de secours, elle reste verte derrière le voile noir. Et c'est vraiment en transparence. Sincèrement, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Et je ne sais pas si j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que c'est.
C'était Le Spectre de la Preuve, un reportage signé Mathieu de Dardelle. Les livres de Daniel Sansu consacrés aux fantômes ont été publiés aux éditions La Baconnière. Après les appareils divers et variés des chasseurs de fantômes, dans le 3e épisode, on parlera énergie négative et géobiologie.
Est-ce juste qu'il y a des présences dans cette maison? Alors, je laisse aller mon pendule, il tourne assez violemment, ça sent très clair, et à un moment donné, ça s'arrête. Alors, quand j'ai comptabilisé dans ma tête, là, j'arrive à 100%, il s'arrête. Bon, ok, il y a des personnes. Ensuite, j'ai combien de personnes est-ce qu'il y a? 1, 2, 3.
Vacarme, une émission de Raphaël Bouchet et de Laurence Di Félix. À découvrir le dimanche dès 13h sur le Play RTS et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous nous aimez, dites-le autour de vous. Et si vous voulez nous le dire de vive voix, notre numéro, c'est le 058 134 134 0. On écoute la suite ?